qu'est-ce qu'on boit?
C'est l'heure que je ferme.
Bah, du vin chaud, ça te va?
Oui. Je ferme.
On a demandé du vin chaud.
D4P.
Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. La hargne. Un texte de Jean-Albert Mazot, sur une lecture de Colline Ferreira d'Albino, du cours Charmet, et l'auteur.
Mais il aime pas qu'on l'appelle capitaine. À scène qu'il a jamais été autre que matelot, merde. Et c'est pas d'hier, hein. Répète qu'il ne veut plus entendre parler de la mer ni d'océan, enfin bon. Et si on s'y risque, c'est coup de canne dans le tibia, hein. Vous vous en souviendrez.
Pourquoi il a une telle hargne ?
Oh, c'est depuis cette histoire, là. Sale histoire.
Ah ouais ?
Non, mais l'histoire d'un navire hauturier et de quelques hommes échoués en Atlantique.
Bah, ils étaient combien ?
Je sais pas, une poignée, peut-être plus. Il y avait le patron du bateau, le second, un vieux loup qui faisait office de mécano, un autre de cuistot et le mousse. Tous s'activant pour ramener du poisson à Redon.
Mais c'était où ?
Aux abords des terres chiliennes, là où des flammes apparaissent au mât des bateaux. Une île minuscule, ridicule, un roc, et rien autour. Sauvés grâce à une corde et une barrique, mais pas saufs.
Ce qui les attendait ?
À la fin, la mort. Mais eux avaient soif de vivre, d'où leur obsession. Au loin, là, une terre, une autre île peuplée d'animaux marins. Y aller, hésiter, répéter, traverser.
Comment ?
À la nage, liée par la corde, comme un symbole relié à la barrique. Et une phrase. Mieux mourir noyé qu'affamé.
Et ils y sont parvenus.
Tant bien que mal. Aux trois quarts ivres de sel et de vent, et de faim enragée après des heures de traversée. Or, sur l'île, à part un peu d'eau douce, rien. Tous les mammifères ont fui. L'arrivée de l'homme chasse l'animal. Sauf un. Une femelle. Qui mettait bas. Les couteaux sortirent alors des poches. Hein.
Ils l'ont tué ?
Lui, là. Celui que tu vois aujourd'hui plein de hargne. Lui ne voulait pas. Scission dans l'équipage pour la première fois. Une femelle, vous y pensez ? Loi de la nature, ont-ils répondu, tuer pour manger. Et le petit, ce qu'il deviendra ? Loi de l'aventure, ont-ils ajouté, ce qu'il pourra.
Et il a pu.
N'ont jamais su. Car après avoir tué, cuit, mangé, dormi, au matin, ils ont regardé. Disparu, le petit.
Enfui.
Bah, en tout cas, plus en vue. Mais la nuit suivante, après un deuxième repas tout aussi frugal que le premier, pour tenir le plus longtemps malgré la faim, surgit un cri. Celui du petit, appelant sa mère dévorée. Et comme ça, des nuits entières. Toutes les nuits à ne pouvoir dormir, à en souhaiter mourir, malgré la soif de vivre. Jusqu'à ce qu'un chalut dérouté les secourut.
C'est ainsi qu'ils sont rentrés.
Dans leur pays, en Haute-Bretagne, ouais. Mais de pêche hauturière, il n'en fut plus question. Hein. Surtout pour lui, que tu vois plein de hargne contre l'océan. Car dès qu'il s'approche d'une mer, et tu penses bien comme il s'y est essayé dans sa jeunesse, il l'entend.
Qui ?
Le maudit de la première nuit. Le petit de la mer dévoré, mais jamais digéré. Des nuits entières, toutes les nuits de sa vie, à entendre une autre loi de la nature. Être aimé.
Mais par qui ?
Ben, quiconque qui, comme lui, caché sous sa hargne, est si délicat que la mort d'un animal équivaut à la vie d'un homme.
L'affaire JB. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Sophie Porzier, Françoise Comacle et Colline Ferreira d'Albino du cours Charmet, Stéphane Padovani, Jean-Albert Mazo et Guy Roulet.
Bien sûr qu'elle était là. Je l'ai vue. Je m'en rappelle bien. Et j'ai pas pu me tromper. Son visage était connu. Il l'est toujours, d'ailleurs. Ce sourire. Même si ce soir-là, elle était un peu triste. Pas triste, non. Lasse. Désabusée. Comme si tout ça, toute cette vie de gala, les succès, les voyages, tous ces hommes à ses pieds, cette réussite, ce tourbillon, l'avait finalement projeté sur le bord de la route. Ou alors, elle avait décidé de quitter cette vie. Le résultat est un peu le même, non? N'empêche, vous imaginez ma tête quand elle a débarqué chez moi comme ça? Elle s'est assise là-bas, oui, au fond, sur la banquette en moleskine, un peu à l'abri des regards. Elle m'a demandé, avec son délicieux accent, si je pouvais lui servir un porte-au-flip. Bon, pensez donc, dans mon cani, je sers que du Beaujolais. Quelques anisettes, bien sûr, un cognac parfois. On était loin des folies bergères et il m'a fallu quelques secondes pour réagir. Elle m'a fixé. Enfin, je pouvais guère cacher ma surprise, mais une cliente est une cliente. Alors, je suis revenu au bar et j'ai demandé à Bébert s'il savait ce que c'était qu'un porte-au-flip. Hein, Bébert, je te l'ai demandé. Et il n'en savait rien. Je lui ai servi un porto normal. J'ai même ouvert la bouteille pour l'occasion. Mais je n'ai pas posé de questions, non. Et ici, les gens qui veulent pas qu'on les embrouille, on les laisse tranquilles. Elle a bu son verre et puis elle est partie.
C'était le 12 avril 1975. Je bossais au Progrès de Lyon à cette époque, j'étais jeune, 19 ans, et pour moi, elle ne représentait pas grand-chose. Vous pensez bien, la guerre, c'était loin, plus vraiment un sujet. Et les années folles, c'était celles de mes grands-parents, les vieux, quoi. Nous, on était les enfants du baby-boom, de 68. Je débutais au Progrès, entrais presque par effraction, livreur, petite main... « Tiens, va me faire un café !» Et puis un jour, on m'a confié un papier sur le cardinal Renard qui avait béni des communiants à Saint-Jean. J'écrivais clairement et sans faute. Du coup, on m'a gardé pour des articles pouvant boucher les trous. Quand la nouvelle de sa mort est tombée par une dépêche AFP, je l'ai gardée d'ailleurs cette dépêche, elle est dans le dossier. Ouais, quand on a appris son décès, le rédac-chef a demandé à Michel de lui faire un article pleine page. Cette femme avait compté pour lui. Il l'avait vue, je crois, chanter, danser, à Paris ou à Bruxelles. Et il voulait marquer le coup. « Prends le petit avec toi », il a dit. « Trouve des photos qui changent des autres. Si t'as des témoignages, une bio aussi. Mais pas de pathos, hein. Moi, je veux de la joie, un truc heureux. Elle était gaie, cette femme. » Il faut faire ressortir ça. Michel m'a embarqué. Il avait 10 idées à la minute. Je lui servais de machine à trier dans le bazar que représentaient les archives. Il a rapidement trouvé ce dont il avait besoin. Michel avait une mémoire surprenante. Et il connaissait l'ordonnancement des archives. Moi, je fouillais dans les vieux numéros, des articles d'avant-guerre, des citations à replacer. Et c'est là que je suis tombé sur les bandes magnétiques.
Vous acceptez les Noirs dans votre hôtel? C'est ce qu'elle m'a demandé, direct, comme ça. Même pas bonsoir, rien. J'ai relevé la tête et là, vous imaginez ma bobine? Mais je suis pas du genre à me laisser démonter. J'avais été dans la résistance, moi aussi, et la répartie, je faisais mon affaire. Bien sûr que je lui ai dit... Tout le monde, j'accepte tout le monde, même les Stéphanois. Tous ceux qui peuvent payer. Elle a ri en posant ses billets sur la banque. Mais son visage semblait exténué. pas comme quelqu'un qui aurait une grosse journée ou qui n'espère plus qu'une chose, dormir. Elle, c'était... Elle était comme perdue. Les femmes perdues, je connais, vous savez. Je tiens cet hôtel depuis tellement longtemps. Elle a marché dans le hall et dans sa démarche, ses pieds frôlant le tapis qu'on avait l'impression qu'elle voulait pas déranger, la petite valise qu'elle serrait contre elle, sentait bien que sa présence même lui échappait. Disons que... Elle s'était pas trompée d'endroit, mais elle n'était pas sûre que ça suffirait. « Madame, votre clé que je lui ai lancée !» Elle est revenue vers moi, a saisi la clé par son numéro, comme si elle tenait un rat crevé par la queue. « Où avais-je la tête ?» qu'elle a dit, dans un souffle, presque inaudible, la clé devant son nez. Bon, je pense que cette question, elle se l'adressait à elle-même. Elle m'a resté cette question. C'est une drôle idée d'utiliser l'imparfait, non ? À moins que, dans sa langue maternelle, où avais-je la tête ? Ah, c'est presque le bilan de toute une vie. D'une partie, au moins. C'est pas le genre de question que je me pose, moi. Je sais que je suis à ma place. Et puis, elle est montée, un peu plus assurée. C'est à peu près tout ce que nous nous sommes dit. Il n'y a pas grand-chose à faire pour les femmes perdues. Mais... Toi, t'es un mec, tu peux pas comprendre.
Ces bandes magnétiques m'ont intrigué. Que faisait-elle là ? Nous étions un journal, pas une radio. Pourtant, Michel m'avait dit « Regarde là-dedans, hein, il doit y avoir des cartons sur les arrêts spectacles. Des négatifs. Qui sait, ça fera plaisir au rédac-chef. Vas-y, je parlerai de toi, si tu me trouves quelque chose d'intéressant. Et puis un nom pareil, ça doit être écrit en gros. Tu vas trouver facilement. » qu'il avait ajouté en feuilletant un livre dont déjà il marquait les pages. Michel avait cette capacité à trouver rapidement. Il tombait toujours sur les bons trucs, ce qui lui permettrait de faire un article sourcé et intéressant. Il est resté mon modèle, même si aujourd'hui je ne suis plus journaliste. Enfin, bref, ces bandes, cette bande, devrais-je dire. Sur le couvercle en acier, il y avait écrit « Paris Inter 1956 ». J'ai ouvert la boîte et il y avait un petit mot manuscrit à l'intérieur. Entretien à propos de la venue. Ben, le reste du message était illisible. J'ai reposé la boîte sans même en parler à Michel et je suis retourné fourrer ma tête dans la poussière. J'imaginais qu'elle était passée par Lyon au moins une fois. Pas simplement une escale, mais quelques jours. Quelqu'un avait peut-être écrit sur elle. Mais non, rien. Vous pensez, la ville n'avait pas de cabaret à sa taille, c'était une femme qui se déplaçait avec autant de matériel et de personnel qu'un cirque. Ses tournées étaient mondiales. Berlin, Londres, New York. Qu'est-ce qu'elle aurait fait ici ? Et pourtant, la réalité a dépassé la fiction.
À l'époque, je travaillais au chemin de fer, à Paris. C'était en 36. Juste avant les grèves et le Front Populaire. Et mon frère, lui, il travaillait au Brotteau à Lyon. C'est lui qui m'a prévenu. Elle avait un spectacle à Rome ou à Madrid, je ne me rappelle plus bien. Pépito avait réservé la moitié du train pour toute la troupe et le matériel. C'était moi le référent. Pépito m'avait à la bonne. Passait toujours par moi pour les réservations. Et en échange, je recevais un billet d'entrée pour le cabaret. Ils sont donc arrivés, les filles, les garçons, des mâles en pagaille, des instruments de musique. Fallait un wagon entier juste pour le matériel de scène. Et Pépito voulait que ce soit moi qui fasse le contrôle de tous les bagages. Pour être sûr de rien oublier, voilà. C'était une autre époque. Le train a failli partir en retard vu qu'elle était pas là. Et alors elle a débarqué d'une Talbot Lago, son guépard tenu en laisse. Vous imaginez la terreur dans la gare ? Elle terrorisait tout le monde, cette bête. Mais l'avantage, c'est que personne venait lui demander un autographe. Et puis, elle est montée dans son wagon, un wagon pour elle seule, sa bestiole et Pépito qui s'agaçait déjà. Et le train a quitté la gare. C'est plus tard, dans la journée, que mon frère m'a appelé sur la ligne interne. Il me disait qu'il l'avait vu filer en passant par les vestiaires du personnel, et que le train était reparti sans elle. Je me souviens, j'ai dit à mon frère qu'il ferait bien de se calmer sur le Beaujolais, mais il était catégorique. Hein. « J'ai pas de la peau de sauce devant les yeux », qui m'a dit. « Une femme comme elle, ça passe pas inaperçu. » Et puis, il a ajouté qu'elle portait un habit simple et un petit chapeau sur la tête. Genre bibi, élégante, mais rien de plus que ce qu'on voyait dans le quartier, et une petite valise aussi. Et elle a disparu comme ça. Boulevard des Belges.
Cette bande, je l'avais oubliée et je suis retombé dessus par hasard. C'était en 93. L'informatique prenait ses quartiers dans les rédactions. Michel avait été l'un des premiers à posséder un téléphone portable, la classe. Des ordinateurs venaient d'être installés. Internet sortirait des cartons sous peu. La rédaction venait de décider d'en finir avec tout ce bazar d'archives et de microfilms. Il fallait numériser. Et on avait embauché une entreprise qui scannait tous les exemplaires du progrès qu'on possédait. Il y en avait pour des mois. C'est un des employés de l'entreprise qui est venu me voir avec la bande à la main, ne sachant qu'en faire. C'est une chance que mon bureau eût été juste à côté. S'il était tombé sur quelqu'un d'autre, tout ceci aurait disparu dans une poubelle. En rentrant chez moi, j'ai placé la bande dans le lecteur. Et j'ai entendu tout ça, tous ces témoignages. Au début, je ne vous cache pas que ça ne représentait pas beaucoup d'intérêt. Des bouts d'entretien réalisés auprès de gens anonymes en 1956 et qui parlaient d'une femme dont on ne savait rien, mais qui semblait intriguer le journaliste. Et les interviewer aussi. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un stagiaire dont ne restait que le patronyme, un nommé Favier, qui était venu exprès de Paris pour questionner, en savoir plus. Comment avait-il appris que 20 ans auparavant, en 1936, il s'était passé ça? En tout cas, rien n'a jamais été diffusé sur les ondes de Paris Inter. J'ai vérifié dans leurs archives.
Baker, oui. Joséphine Baker. C'est sous ce nom-là qu'elle s'est présentée. Moi, de toute façon, il était inutile de prendre un pseudonyme. Je l'ai reconnue tout de suite, quand elle est entrée dans l'atelier. Elle a demandé à parler à la directrice. Alors, Madame Flaconèche est sortie de son bureau. Et là, stupeur. Et puis après, elle était tout sourire, vous pensez bien. Elle croyait que Joséphine venait la voir pour des tissus. Elle s'imaginait déjà des commandes, son nom en haut de l'affiche. Elle lui a dit d'entrer et m'a demandé de venir aussi avec mon bloc. Eh ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Joséphine Baker ne venait pas pour tester la qualité des soieries, mais pour de l'embauche. Madame Flaconèche savait plus quoi dire. Alors elle tenta bien de jouer sur le registre comique, pensant à une blague, quoi. La drôlerie, c'était bien son domaine à Joséphine. Mais non. Sa demande était tout ce qu'il y avait de plus sérieux. Baker n'en pouvait plus de la vie d'artiste. Elle voulait retrouver l'anonymat, une vie simple. Elle nous parla longuement. J'en garde un souvenir ému, vous savez. Cette femme si belle, si libre. Ce succès. Mais là, toute repliée sur sa pauvre chaise, elle semblait complètement désemparée, quoi. Et elle a tout déballé, en vrac. Son mari volage, un nommé Pépito. Les enfants qu'elle ne pourrait jamais avoir, la pression du milieu, cette gifle qu'elle a reçue un soir de gala, Miss Tinguette, qui ne supportait pas sa notoriété et dont la bague affûtée lui avait ouvert la lèvre. Et puis l'Amérique, qui n'avait jamais voulu d'elle, sa famille dont elle n'avait plus de nouvelles, le racisme qui ressortait dans toutes ses phrases comme un couteau qu'on remue dans la plaie. Même en France, qu'elle répétait, même ici, je le sens bien. Je n'en peux plus d'être la négresse de service qui tortille des fesses devant des vieux messieurs qui vous méprisent et ne cherchent qu'à vous baiser. Elle ne savait pas coudre, ni couper, ni ajuster, ni rien en fait. Elle savait juste danser et chanter aussi. Mais elle répéta qu'elle était disponible, qu'elle apprendrait vite, et puis qu'elle aimait la ville aussi, qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle mentait mal. Derrière les carreaux, la nouvelle avait fait tout le tour des ateliers et des ouvrières se pressaient du coude pour voir l'incongru. Un chef est passé, il a renvoyé tout le monde à son poste. Et quand il a reconnu Joséphine, il a craché par terre. Madame Flaconèche était bien embêtée, hein. Elle n'avait rien pour elle. Même devant les suppliques de Joséphine, elle resta intraitable. Arguant qu'il fallait qu'elle revienne à la raison, sa carrière, et que sa maison pouvait fournir. Voulait-elle visiter ? Alors, Joséphine a repris son sac et elle est sortie du bureau. Comme ça. Comme une chômeuse qui s'en retournerait dans sa soupente en se demandant comment elle allait faire pour nourrir ses enfants. Et que, même, il ne lui restait plus que son corps à vendre.
Elle est revenue le lendemain soir. Plutôt guillerette. J'ai pas posé de question, mais je vous jure qu'elle allait bien mieux quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé de l'embauche. À la Guille, un bouchon où il y avait des Africains comme clients. Des gars qui étaient venus des colonies pour bosser sur des chantiers. On annonçait la construction d'HBM du côté de Gerland. Eux feraient les manards et elle le service. Elle était heureuse, hein, parce que personne ne l'avait reconnue. Elle avait dit que son accent était antillais. Tu parles, elle avait de la gouaille, celle-là. Une vraie gonne. Et puis, elle m'a demandé si je connaissais pas un garni à louer, qu'elle pourrait pas rester à l'hôtel toute sa vie. Elle est montée se coucher. Mais le lendemain matin, mon ami... Oh, le lendemain, c'était plus la même musique. Je venais juste d'ouvrir quand j'ai vu un carrosse se garer devant chez moi. Trois types en sont sortis. Le genre bien habillé, costume et tout ça, mais un seul est entré. Il s'est présenté comme l'impresario de mademoiselle Joséphine Baker. Moi, je l'ai pris pour un Mac. Et que même, je me suis dit que ce type allait lui mettre sur la peau. Comme je voulais pas lui donner le numéro de sa chambre, il m'a dit qu'il attendrait. Et à 10h, Joséphine est descendue. Mon Dieu! J'ai lu dans ses yeux toute la détresse de l'animal qui peut plus fuir. Elle a baissé la tête, elle l'a suivi. En partant, le Mac m'a demandé s'il me devait quelque chose.
Voilà. Vous savez presque tout. Ce ne fut qu'une parenthèse dans la vie de Joséphine Baker, qui a retrouvé les planches, les feux de la rampe, la gloire, et plus tard les médailles, un jour qui sait le Panthéon. Personne ne connaît cette histoire. Je n'ai pas retrouvé l'hôtel où elle a séjourné pendant ces deux nuits, ni la femme qui tenait ce bistrot, ni le chef de gare, ni le fameux bouchon où elle s'était fait embaucher comme serveuse. Ces gens-là ont disparu depuis longtemps. Aux ateliers Flaconèche qui existent encore, ceux qui ont vécu dans les années 30 sont tous morts. Pensez bien. Aucune trace de son passage. Reste le dernier témoignage, et pas des moindres. Paul Bocuse. Mais, dommage pour vous. Il vient de mourir.
T'arrives presque au coup de feu, là. Magne, on a du boulot. C'est quoi ta question ? Joséphine Baker. Ah ouais. J'avais même pas 10 ans quand elle est passée à l'auberge, à Collonges. C'est mon grand-père qui tenait la cuisine à cette époque-là. On pourrait croire que tout est faux, pas vrai ? Même moi, j'en doute encore. Le restaurant n'était pas connu à cette époque, même si on y mangeait déjà très bien. Et puis, je me souviens de rien. J'étais trop petit, mais... Regarde, tu vois cette photo ? C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. C'est moi, là, à côté de Joséphine Baker, sirotant une citronnade. Là, c'est mes grands-parents... Et là, mon père. Georges. L'homme qui est debout dans son manteau, c'est l'impresario de Joséphine. Il a l'air sévère des maîtres d'école, pas vrai? Et Joséphine, ma foi, son sourire me semble un peu forcé.
Dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incolore, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois pour me prouver. De temps en temps, embrasse-moi dans tes bras. Quand ma vie se casse, monsieur me quitte, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision de baiser. Ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps. Car bien des fois le cœur ignore ce que la main écrit souvent. Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles de temps en temps dis pense à moi.
S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. Héraclite d'Éphèse.
Des quatre B.
la route de Tajano.
Os banhos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são a culpar a ser nascer e morrer. Mandei fazer de puro azul luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
Come along with me along the Mississippi. We'll take a boat to the land of dreams. steam down the river down to New Orleans. A band there to meet us. Old friends to greet us. You'll see the place where the folks all eat. A heaven on earth, they call it Basin Street. Basin Street is the street where all good friends always meet in New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, a where welcome streets welcome me, and where I can lose my Basin Street blues.
Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos?
Alors, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, alors.
Ça fait trois fois que vous me faites ça. mes souliers, mon vélo.
D4B.
La peur au vent bien accrochée, gagner du terrain, avancer, ne pas se faire rattraper. Vers un ailleurs bien sûr meilleur, une terre promise, une terre de cœur, même si le cœur on l'a laissé au champ des ruines et du passé. Peut-être là-bas on trouvera tout ce que l'on avait déjà, alors on allonge le pas, main dans la main, le regard droit. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. Bien passer les frontières, gagner le droit à un bout de terre, un coin de paix pour prospérer, où les enfants pourront chanter. Mais on entend sur nos chemins les pronostics de nos destins, et on regarde nos gamins en serrant fort leurs petites mains. On se surprend à espérer des lendemains améliorés, laver de la peur et des regrets de tout ce qu'on aura laissé. On voudrait bien bien vivre comme vous dans nos pays ou bien chez vous et retrouver les petits tracas de celui qui ne s'en fait pas. Y'a un grand père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Y'a un grand père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Hommes libres par la paix, des citoyens par volonté. Voilà au fond ce que nous sommes, voilà vraiment ce que sont les hommes. Mais gardez bien votre pitié, car nous en sommes rassasiés. Donnez un peu d'humanité, car nous en sommes affamés. Il y a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, le désespoir est avalé. C'est pas le vent ou bien la pluie qui nous embarque dans la nuit, c'est bien la crosse d'un fusil qui nous efface de nos vies. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle.
Je ne sais pas où ça commence, je ne sais plus où ça finit. Je t'ai connu, j'étais petit, je sortais à peine de l'enfance. Et puis les années ont passé, et nos corps se sont rapprochés. J'ai trouvé un peu de repos dans ton regard contre ta peau. Depuis, tu me couches le soir quand mes bouteilles de désespoir me font pleurer, me font gémir, et qu'il est l'heure d'aller dormir. Avec ma gueule qui l'ouvre trop, avec mon cœur qui veut t'aimer. Tu m'ouvres un soir d'été la porte de la chambre du haut. Avec la colère comme ami, mes rêves étaient tachés de gris. J'avais si peur, moi l'homme enfant, que je ne voulais pas devenir grand. Et puis tu m'as apprivoisé, tes mains sont devenues mes mains. Dans ton regard j'étais moelé, j'avais moins peur des lendemains. Depuis tu me couches le soir dans mes bouteilles de désespoir. Me font pleurer, me font gémir, et qu'il est l'heure d'aller dormir. sais plus où ça commence. Je ne sais pas où ça finit. Je t'ai connu, je n'étais personne, et me voilà devenu homme.